Caroline Attia, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente d'Optrack & Conseil. Vous venez de publier les financiers sur le divan. Alors, au moment où on apprend que le pourvoi en cassation de Jérôme Kerviel, fameux trader de la Société Générale, sera au mois de mars, on va parler avec vous de psychologie des financiers que vous avez étudié bien. C'est votre métier d'ailleurs, psychologue. Alors, vous avez été vous-même tradeuse, vous avez été également skieuse. Qu'est-ce qui vous a amené justement à étudier de près cette psychologie dans la finance ?
Eh bien, dans mon activité de sportive de haut niveau, j'ai participé aux Jeux Olympiques, je me suis déjà rendu compte que ce qui se passait dans la tête était plus important quasiment que la technique. Et j'ai retrouvé cette conviction quand j'ai été trader pendant 17 ans au Crédit Agricole puis à la Société Générale.
Alors, quand vous, justement, vous avez été trader, est-ce que ces aspects psychologiques, vous en êtes rendu compte dans votre gestion quotidienne, dans ce que vous faisiez à l'époque ?
Oui, je me rendais bien compte que je gérais pas tout à fait comme j'aurais voulu, que je commettais un certain nombre d'erreurs. Et c'est ce qui m'a fait m'intéresser vraiment à la psychologie de la finance et ensuite à entamer un cursus qui m'a amené jusqu'à obtenir le titre de psychologue. Parmi les erreurs les plus fréquemment commises et qu'on retrouve également dans les cas de scandales financiers ou de rock trading, on retrouve l'aversion aux pertes. C'est-à-dire que quand on est dans une situation de perte, on prend de plus en plus de risques parce que ça devient insupportable et jusqu'à moyenner à la baisse, voire des micro-comportements de jeu pathologique où on va arriver à cacher des positions, faire des faux, etc. Et ça, c'est un vrai problème lorsqu'on travaille en finance.
Quelque part, c'est ce qu'on retrouve dans les différentes affaires de traders depuis Nick Leeson, par exemple, qui avait mis en faillite la Barings à l'époque et qui était, lui, sur les marchés asiatiques. C'est beaucoup plus facile dans le sens de gain que d'accepter finalement une perte, une petite perte peut-être au départ, mais qui va s'amplifier.
Oui, c'est exact. On retrouve souvent ça à l'origine des cas de rock trading, que ce soit pour Nick Leeson ou Jérôme Kerviel. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la perte, ce n'est pas forcément une perte en argent frais, mais c'est une perte qui est subjective et psychologique par rapport à un point de référence mental. Ce qui fait que si, par exemple, on a pour objectif de gagner 10 millions d'euros et qu'on en est qui a entre guillemets 1 million d'euros, on a donc le sentiment d'être déjà en perte alors qu'objectivement on est en gain et donc on va prendre de plus en plus de risques. Et à ce titre, le regret est une émotion qui est très préjudiciable.
Alors on peut dire qu'effectivement ces chiffres sont au-delà de ce qu'on peut imaginer quand on pense à 50 milliards d'euros pour Jérôme Kerviel, quand on voit les sommes en question. Cette notion aussi de par rapport au quotidien pour le trader. Finalement, à achat-vente, sur la journée, il ne va pas se rendre compte forcément de tout ce qu'il va faire. Pour lui, ça
n'a
pas de
sens. La plupart des traders ont quand même un sentiment des sommes qu'ils manipulent. Mais c'est vrai que quand on en est rendu à perdre de l'argent, à ce moment-là, c'est vrai que ça peut devenir virtuel puisqu'on ne le touche jamais, cet argent-là, qu'on passe facilement des ordres en appuyant simplement sur un bouton. Et puis surtout, psychologiquement, plus on perd et moins ça fait mal. Ce qui fait qu'à un moment, on a intérêt à exploser, à perdre gros, plutôt qu'à perdre plusieurs fois petit. Et c'est pour ça qu'on se fait embarquer dans un engrenage.
Alors, est-ce que vous dites néanmoins que, parce qu'on voit des traders qui se disent extraordinaires, est-ce que, on va dire, à Jérôme Kerviel, à Nick Leeson, finalement, est quelqu'un comme un autre, comme quelqu'un de la rue, comme un homme de la rue ? Est-ce qu'il a les mêmes comportements, finalement ?
Absolument, il a les mêmes comportements. Ça a été montré dans les recherches en psychologie. Et Kahneman et Tversky sont deux psychologues qui ont obtenu le prix Nobel d'économie en 2002. Et ils ont bien montré que ça concerne absolument tout le monde, que l'on boursicote chez soi devant un écran ou qu'on soit un trader professionnel. Ce qui me fait dire que les traders professionnels devraient se pencher un peu plus sur leurs propres émotions et faire un travail de ce côté-là.
La crise est toujours là, la crise économique. À l'origine, il y avait la crise des subprimes en provenance des États-Unis. Et dans votre livre, vous dites que cette crise des subprimes, finalement, ceux qui étaient aux commandes à l'époque sur les marchés financiers, finalement, ne voyaient que le côté, finalement, rendement, presque sécurité de ces produits très complexes. C'est étonnant.
Oui. Alors, ce qu'on trouve souvent aussi à l'origine des crises financières, c'est cette période d'exubérance qui précède la crise. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est dangereuse, cette période d'exubérance? C'est parce que l'émotion prend le dessus, et l'émotion est très positive et vient alors fonctionner comme si c'était une information de premier choix pour les décideurs. Comme ils se sentent bien, comme ils ont une émotion positive, alors ils en déduisent rapidement, ça a été montré en psychologie cognitive, ils en déduisent rapidement qu'il n'y a pas de risque. Et donc, ils en oublient d'évaluer correctement les risques. Voilà, l'émotion fonctionne comme une information privilégiée, ce qui explique le manque de diligence requise.
Et là, on avait en plus, on pouvait dire, c'était complètement contradictoire avec les principes classiques de la finance, puisque là, on avait du rendement et de la sécurité. Les deux sont contradictoires.
Absolument, ça donne une illusion de sécurité, mais c'est parce que les gens ne traitent pas correctement l'information et qui font un lien extrêmement rapide entre l'affect positif qu'ils ressentent et l'absence de risque, comme s'ils confondaient un petit peu les deux. Et ça aussi, ça a été montré en psychologie, y compris pour les gérants professionnels qui ont été complètement sidérés de ces résultats.
Alors on pourrait dire il y a des tas de raisons psychologiques, d'émotions qui viennent finalement perturber l'investissement. On a parlé de traders, d'affaires particulières. Est-ce que ça peut toucher, on va dire, on parlait de l'homme de la rue tout à l'heure, qui finalement va prendre un certain nombre de décisions dans sa vie personnelle, de financière?
Oui, parce que l'émotion, les instances ont voulu réguler les salaires, mais l'émotion ne vient pas que des salaires, elle vient aussi du sentiment de puissance ou de pouvoir qu'on peut ressentir en passant des ordres en bourse, qu'on soit un professionnel ou un particulier. Donc cette émotion, elle peut toucher n'importe qui. Et donc il faut savoir que quand elle nous arrive dessus, on a tendance à ne plus traiter l'information.
Dans ce contexte, avec des émotions, de la psychologie, on a beaucoup parlé de régulation après ces crises. Certains disent qu'il n'y en a pas assez, mais on se demande comment la régulation finalement peut affecter ou contrôler ces émotions. Ça paraît compliqué.
Oui, c'est sûr que la régulation ne peut pas contrôler les émotions. En revanche, les individus peuvent apprendre à le faire s'ils sont formés et qu'ils savent que c'est important. L'avantage de la psychologie, c'est qu'elle prend les causes à la source et donc que ça devient une méthode de prévention qui est peu coûteuse. Par ailleurs, en intégrant ces aspects psychologiques aux réflexions qui concernent la régulation, on devrait pouvoir trouver des solutions inédites que je ne peux pas vous citer forcément, parce qu'il faut entamer une réflexion en intégrant ces aspects-là.
Donc quelque part, aujourd'hui, on en est encore loin. On met ça un peu de côté. C'est-à-dire qu'on a, pourtant, dans votre livre, on voit plein d'exemples de clairement où la psychologie, ses émotions, ses erreurs, ses biais, finalement, des individus ont contribué largement à des crises très importantes.
Ben oui, absolument, parce que quand des gens excessivement confiants ou un peu narcissiques pondent des modèles qui vous disent que leur stress test, la perte maximale est de 90 millions d'euros et puis que tout d'un coup ils perdent 500 millions, c'est qu'il y a un vrai problème. Y compris dans les paramètres du modèle, ils ont mis des paramètres qui sont excessivement confiants. Donc le problème est à la source. Et donc la régulation doit prendre en compte ces erreurs pour réfléchir à des solutions qui soient un peu différentes. Mais pour l'instant, c'est absolument pas pris en compte. On se focalise uniquement sur la technique, les systèmes d'information, etc. Mais je pense qu'il manque quand même une composante, c'est la composante humaine.
Ça veut dire peut-être en conclusion que de votre point de vue, vous avez été sur ces marchés, vous vous dites que ça peut se reproduire avec tel ou tel trader dans tel ou tel domaine de marché, sur tel ou tel marché. C'est possible que ça recommence, justement.
L'aversion aux pertes, elle existe chez tout un chacun. Donc si les contrôles de la banque ne sont pas minutieux, ça peut se reproduire. Donc il faut faire attention à ça. Et en prévention, il s'agit de savoir gérer ses émotions en cas de perte et d'apprendre aux traders à le faire.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Caroline Attia. Je rappelle le titre de votre livre, Les financiers sur le divan. Il y a beaucoup de choses à apprendre, à la fois bien sûr sur ces marchés, sur ces traders, mais aussi peut-être sur ses propres comportements d'investisseurs. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.